Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à allumer vos téléphones. C'est déjà fait, j'imagine. Pour voir la suite du livre de Josué, on est arrivé au chapitre 9 et 10. Et on va faire la lecture du chapitre 9. Alors j'espère que vous allez être concentrés. Il est un peu long, mais... Le contexte, rapidement, juste avant de faire la lecture, Josué 9... Le peuple d'Israël vient de remporter une victoire. Samuel, la semaine dernière, nous parlait du Dieu de la deuxième chance. Ils avaient échoué, mais finalement, ils ont pu revenir sur Haï et puis remporter cette grande victoire. Et je vous ferai la lecture à partir du chapitre 9, verset 1. À la nouvelle de ces choses, de cette victoire, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, ça c'est la Méditerranée, jusque près du Liban, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant, « faites alliance avec nous !» Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs !» Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. Et maintenant, faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous nous avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies, toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle ils devaient leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville. Le 3e jour, leur ville était Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kirjath-Jéharim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à l'assemblée, « Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, « Nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué et dirent, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays, pour en détruire devant vous tous les habitants. et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. » Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Jusqu'ici, la parole de Dieu, je vous invite à écouter un peu cette citation de John Piper. Voici ce qu'il dit. « Nous ne pouvons pas savoir à quoi sert la prière tant que nous n'avons pas compris que la vie est un combat. » La vie est un combat. Certes, elle n'est pas que cela, mais elle est toujours un combat. La prière est avant tout un équipement de combat, une sorte de talkie-walkie au service de la mission de l'Église afin de faciliter la progression contre les puissances des ténèbres et de l'incrédulité. Aussi n'est-il pas étonnant que la prière fonctionne mal quand nous essayons d'en faire un simple interphone intérieur nous permettant d'améliorer notre petit confort dans nos appartements. Quand nous oublions que nous sommes dans une bataille, nous délaissons la prière. Et c'est l'expérience que va faire Israël dans ce récit. Suite à la nouvelle de la victoire spectaculaire d'Israël à Haï, tous les rois cananéens décident de se réunir pour combattre contre Josué et Israël. Ça, c'est les versets 1 et 2. Hormis les habitants de Gabaon, Gabaon, c'est la prochaine ville sur la liste de Josué à détruire. Ils sont à quelques dizaines de kilomètres. Et eux, ils vont employer la ruse pour obtenir la paix. On voit ça dans les versets 3 et 4. Et donc, on va voir ce matin la paix arrachée. On verra ensuite une erreur assumée et enfin une confiance honorée. Regardons une paix arrachée tout d'abord. Voici comment ils s'y prirent, hein, verset 4b. Et jusqu'au verset 6, il nous est dit voilà qu'ils sont venus avec des vieux sacs pour leurs ânes, des vieilles outres à vin déchirées, recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers, de vieux vêtements, du pain sec et qui tombe en miettes. Ils habitent à 25 kilomètres de Gilgal. C'est des voisins. Ils jouent une comédie incroyable. C'est au théâtre ce soir. Les costumes sont de Roger Hart et les décors de Donald Cardwell. Ces hommes d'Israël ont bien un doute, vous avez remarqué ça ? Verset 7, les hommes d'Israël dirent à ces Éviens, ils les appellent, le narrateur les appelle des Éviens, parce qu'en Deutéronome, il dit avec les Éviens, vous ne ferez jamais d'alliance, d'accord ? Avec certains, vous pouvez, mais avec les Éviens, jamais. Et donc, ils répondent à ces Éviens, et peut-être vous êtes du milieu de nous et on ne le sait pas, ils ont un doute. Et Josué a aussi ce doute. Verset 8, il insiste en leur posant des questions qui sont assez claires. Hein, et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Et là, ils lui répondent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. » Probablement, ils ne sont jamais sortis d'Israël, alors ils ne connaissent pas les pays d'alentour. C'est un pays très éloigné, tu ne peux pas connaître Josué. Ils racontent leur histoire. Faites alliance avec nous. On a entendu parler de tout ce que votre Dieu a fait. C'est incroyable. Mais ils racontent des vieilles histoires, les histoires de l'Égypte. Parce que s'ils racontaient la bataille de Jéricho et de Haï, ils auraient fait tomber leur masque. Hein, merci. Et maintenant, ils présentent leurs preuves. Vous avez remarqué ça? Voilà leur pain, voilà leurs chaussures, ils montent tout. Voilà, ça semble vraiment bien. Et puis au verset 14, il nous est dit que les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Ici, je pense que l'idée de prendre leurs provisions, c'est juste de regarder. Ils ont dit, t'as vu ce pain? Il tombe en miettes, ça fait des mois qu'ils sont en route, ces gens-là. Et la Bible dit juste après, dans le même verset, et ils ne consultèrent pas l'Éternel. Ça, c'est le premier point important du récit. Du coup, Josué fait la paix. Israël s'engage à ne pas les détruire. Il conclut une alliance. Et dans le Proche-Orient, l'alliance impliquait généralement des devoirs réciproques. Ici, les Gabaonites se plaçaient sous l'autorité d'Israël. Ils leur disent sans cesse « Nous sommes tes serviteurs ». Donc c'était très clair pour eux. Tandis qu'Israël devenait leur protecteur. Et enfin, les chefs leur jurèrent. Et là, c'est un serment solennel au nom de l'Éternel. C'est pas vous, mais moi, j'ai un peu de mal à condamner les Gabaonites. Ce sont des païens. Et ils cherchent à sauver leur vie, leur peau. Ils pensent qu'ils n'ont aucune chance face au Dieu d'Israël. Par contre, le texte semble sans complaisance envers les anciens d'Israël qui n'ont pas consulté Dieu. Ils se sont fiés à leur propre jugement. Josué apparaît comme un dirigeant fidèle, courageux dans tout le livre. Il est généralement très attentif aux directives divines et on est frappé par son erreur. En Exode 33, il nous est dit que l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. La tente dont il est question ici, c'était la tente de la rencontre où Moïse consultait l'Éternel. Le fait que Josué y reste lorsque Moïse repart est souvent interprété comme un signe de sa fidélité, de son attachement à la présence de Dieu et de sa préparation future comme successeur de Moïse. Et une seule décision prise sans consulter Dieu a suffi à créer une situation irréversible. Mes frères et sœurs, si ce Josué a été trompé et n'a pas consulté l'Éternel avant de prendre cette décision, nous ne devrions pas imaginer être à l'abri d'une telle erreur. Nous prenons aussi sans cesse des engagements, des décisions. Un choix de carrière, un choix pour ses études, une relation amoureuse dans laquelle on s'engage, un mariage, un engagement dans un ministère, un lieu d'habitation, parfois une décision financière importante. Comme les anciens d'Israël, nous examinons souvent les faits, les apparences. Non, ce job, vraiment, il me paraît très bon. C'est très correct. On a un léger doute concernant l'absence d'église à moins d'une heure de chez nous, mais on fait rapidement taire ce doute, porté que nous sommes par nos désirs. Nous écoutons nos émotions. Nos sentiments sont réels, mais nos sentiments ne sont pas infaillibles. J'aime vraiment ce gars. J'aime cette fille. Oui, c'est vrai, c'est pas un chrétien, mais franchement, il est pas complètement opposé. Et puis, il est sincère. Là, on a tout dit. Et puis, nous écoutons la culture environnante. Ces grandes idées qui finissent par nous imprégner. Dans les grandes idées, il y a tant que les personnes sont consentantes, tout est permis. Si ça te rend heureux, ouais, c'est le principal. Avec ce que tu as connu, ouais, tu mérites bien ça. Ces idées peuvent paraître naturelles parce qu'elles sont répétées partout, mais elles sont souvent en tension avec l'enseignement biblique. Et puis nous écoutons notre propre cœur. Et ça, c'est peut-être le plus dangereux. Nous avons tendance à minimiser notre péché, à exagérer nos bonnes motivations, à justifier nos comportements, à penser que certains avertissements bibliques sont plus pour les autres que pour nous-mêmes. Nous considérons les pratiques du monde, nous écoutons nos émotions, la culture ambiante, notre propre cœur, mais nous ne consultons pas Dieu. Nous négligeons la prière, nous négligeons les Écritures et les conseils de croyants mûrs. Ici, ils sont trompés, moins par les Gabaonites et leurs sketchs, que par leur propre cœur autosuffisant. Nous sommes naturellement enclins à faire confiance à notre propre sagesse. Pourtant, Proverbe, chapitre 3, verset 5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » La question n'est pas seulement « Qu'est-ce qui semble logique ?» mais « Qu'est-ce que Dieu veut ?» Vous savez, les pros de l'arnaque connaissent généralement bien le fonctionnement du cœur humain. Ils savent qu'on est plus vulnérable après un succès. La réussite nous grise. Ici, ils viennent de remporter la bataille contre Haï. Ils sont assez sûrs d'eux. Ils sont en confiance. Au verset 8, les Gabaonites insistent en s'adressant spécifiquement à Josué. Vous avez remarqué, avant ils parlaient à Josué et puis aux anciens d'Israël. Maintenant, ils parlent directement à Josué. Josué, oh, écoute-nous. On est tes serviteurs. Josué, mes serviteurs. Et il répète ça. Nous sommes tes serviteurs. Et puis on a entendu tout ce que ton Dieu à toi a fait. Et en fait, d'une certaine manière, il lui passe juste ce qu'il faut de pommade pour l'endormir un peu. Et puis, il considère l'épreuve. Le pain en miettes, là, c'est quand même pas mal. Et ici, leur erreur n'est pas l'absence de vérification. Je pense qu'on devrait vérifier. Mais c'est de s'arrêter à cette vérification. Leur erreur était pas tant un manque d'intelligence, mais un manque de dépendance de Dieu. À ce moment-là, ils ne sont plus en mode combat. C'est pour cela qu'ils ne consultent pas Dieu. C'est pour cela que le talkie-walkie de la prière n'a pas vraiment d'intérêt à ce moment-là. C'est quoi consulter l'Éternel aujourd'hui? Je pense que consulter l'Éternel nécessite en premier lieu d'avoir une compréhension de l'état de notre cœur, reconnaître que notre cœur est tortueux. Il est sujet au péché. C'est reconnaître notre capacité à nous tromper, sincèrement. Le péché, comme les Gabaonites, se présente rarement sous son vrai visage. Du coup, l'avidité ne vient pas avec l'avidité. La cupidité, non. Plutôt sur la prudence financière, voyez. C'est beaucoup plus beau, non? L'orgueil, ah non, c'est pas de l'orgueil, c'est de la confiance en soi. L'amertume, c'est un souci de justice. La convoitise, c'est une simple appréciation de la beauté. La compromission? Non, mais c'est être ouvert un petit peu. Vous voyez, la tromperie du péché consiste précisément à rendre acceptable ce que Dieu condamne. Quand on a compris cela, quand on se méfie de notre propre cœur, quand on reconnaît notre capacité à nous tromper, on va venir devant Dieu. On va prier pour recevoir sagesse, discernement. On va dire au Seigneur, j'ai bien tout regardé, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin, je suis tellement prompte à me tromper, à me laisser piéger. Et puis, on va examiner les Écritures. C'est ça, consulter Dieu. Mais il ne s'agit pas de chercher frénétiquement un verset dans la Bible qui me dirait de faire ce que je dois faire, d'accord ? Un peu comme une réponse divine instantanée. C'est plutôt la recherche de Dieu quotidiennement, qui dévoile ses principes et qui les dépose sur mon cœur. Et puis, enfin, consulter l'Éternel, c'est finalement obéir. On fait ce que l'on sait devoir faire, et eux n'ont pas consulté l'Éternel. Regardons maintenant les conséquences. 3 jours plus tard, il découvre le pot aux roses, la vérité. J'imagine la scène. Ils sont là, les Israélites, en train de monter contre Gabaon. Et puis, au milieu d'eux, il y a les Gabaonites. Et puis, ils disent, où est-ce qu'on va là ? On monte à attaquer Gabaon. Oh super, ma femme me manque, mes enfants, et je t'invite, je vais te présenter. T'es du coin toi ? Ah ben j'habite là, mes parents habitaient là, mes arrière-grands-parents habitaient là. Et là ils réalisent tous, on s'est fait piéger. Israël apprend que les Gabaonites sont en réalité leurs voisins, vivant dans le pays que Dieu avait ordonné à Israël de conquérir. Verset 18 dit que l'assemblée murmura contre les chefs. On comprend leur mécontentement envers les chefs qui avaient pris cette décision sans avoir consulté l'Éternel. Ils murmurent. Bon, on sait à la lecture de la Bible qu'ils ont souvent l'habitude de murmurer. Mais là, peut-être parce que la mission de la conquête est entravée quand même, peut-être. C'est ballot. Mais peut-être aussi, ils murmurent parce que il y a un manque à gagner quand même. On aurait pris Gabaon, on aurait tout raflé pour nous. Il n'y a plus de butin, là. Du coup, ils sont peut-être favorables à ne pas honorer la promesse de paix qui leur a été arrachée, mais plutôt de se retourner contre les Gabaonites. Plutôt que de murmurer, peut-être une petite application au passage. Prions pour nos responsables, pour qu'ils prennent du temps avec le Seigneur, qu'ils consultent l'Éternel jour après jour. Cependant, les chefs maintiennent leur engagement parce qu'ils ont prêté serment au nom de Dieu. Et voilà le deuxième point important de notre passage. La repentance n'efface pas toujours les conséquences d'une mauvaise décision. La fidélité consiste parfois à assumer avec intégrité les conséquences de nos propres fautes. Et pour nous, il y a une vérité très importante ici à retenir. On ne règle pas un péché par un autre péché. On ne règle pas une grossesse en dehors du mariage par un avortement. On ne règle pas un mariage avec une personne incroyante par un divorce. On ne règle pas un mensonge par un autre mensonge. La repentance n'efface pas toujours les conséquences de nos fautes. Mais la repentance nous rétablit toujours dans la communion avec le Dieu de grâce. Rompre ce serment aurait été considéré comme une faute grave, verset 20 le dit. Pourquoi ? Mais parce que le serment engage le nom de Dieu, c'est-à-dire son caractère. Rompre cet accord de paix serait laisser penser que Dieu est capable de s'engager, de faire une promesse et de ne pas la tenir. C'est impossible. Plusieurs siècles plus tard, 400 ans plus tard, Saül, le roi Saül, viole ce serment qui a été fait ici, en cherchant à exterminer les Gabaonites. Dans 2 Samuel chapitre 21, on apprend qu'il y a une famine qui s'étend sur tout le pays. Que fait David ? Le roi David en place, il cherche Dieu, il consulte Dieu dans la prière. Et Dieu lui révèle qu'une famine frappe le pays à cause de cette rupture de l'alliance avec les Gabaonites. Même plusieurs générations après le serment, Dieu reste fidèle à ses engagements. Ainsi, selon Josué 9, 21, 23, 27, les Gabaonites deviennent des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau pour l'ensemble de l'assemblée d'Israël et pour l'autel de Dieu. Leur tâche, elle est à la fois une sanction. Au verset 23, il est dit « Maintenant, vous êtes maudits parce que vous nous avez trompés ». Mais c'est aussi une forme d'intégration au sein du peuple et dans le culte de l'Éternel. En servant à l'autel, en apportant le bois pour les sacrifices et l'eau pour les ablutions, ils entrent dans le service du Seigneur, même par la petite porte, si je peux dire. Mais ils y rentrent. En étant affectés au service de l'assemblée et de l'autel, ils se trouvaient constamment en contact du culte rendu à Dieu. Par cette proximité, ils étaient exposés à l'enseignement et aux pratiques liées à l'adoration de l'Éternel. Et ils étaient tenus éloignés des cultes païens et de l'idolâtrie. Lors du partage du territoire d'Israël, en Josué chapitre 18, on apprend que les villes gabaonites, ces quatre villes là dont les noms sont cités, sont intégrées dans le territoire de Benjamin. Ça veut dire ils ne sont plus simplement un peuple à part que l'on tient à l'écart. Non, ils sont intégrés dans la tribu de Benjamin pour servir l'Éternel. Et puis en Josué 21, verset 17, il nous est dit que Gabaon est devenue l'une des 48 villes attribuées aux Lévites. Les Lévites, c'était la tribu qui était chargée d'instruire le peuple de la loi de Moïse et puis d'opérer les sacrifices, etc. 1000 ans plus tard, après la déportation, après l'exil babylonien du temps de Néhémie, on retrouve les habitants de Gabaon qui participent à la reconstruction des murailles de Jérusalem avec le reste du peuple. Dieu a fait son œuvre dans ce peuple. D'une manière surprenante, les Gabaonites ressemblent à des pêcheurs qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas survivre face au jugement de Dieu. Leur démarche, elle est imparfaite, bien entendu. Elle est marquée par la tromperie. Mais ils cherchent refuge auprès du peuple de Dieu. Et leur motivation initiale n'était peut-être pas la foi, mais elle témoignait déjà d'une reconnaissance de la supériorité du Dieu d'Israël sur les dieux cananéens. Au chapitre 11, il nous est dit au verset 19, c'est un peu la fin de la série des conquêtes du Sud, il est dit « Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. » Et ils les prirent toutes en combattant, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il y ait pour eux de miséricorde, et qu'il les détruise comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. » Je vois ici vraiment toute la grâce de Dieu, la miséricorde. Dieu est prêt à accueillir le pécheur qui se confie en lui. Nous aussi, nous étions des étrangers, on l'a chanté tout à l'heure plusieurs fois, des ennemis de Dieu. Nous n'avions aucun droit naturel à son alliance. Pourtant, en Christ, Dieu accueille ceux qui viennent chercher refuge auprès de lui. Même si pour entrer aujourd'hui dans la famille de Dieu, on ne peut pas faire l'économie de la repentance et de la foi en Jésus-Christ et dans son œuvre de salut par sa mort, sa résurrection. Peu de personnes en réalité viennent à Christ avec des motivations parfaitement pures. Certains arrivent avec une compréhension limitée de qui est Dieu, de ce qu'il fait. D'autres arrivent avec des arrière-pensées, peut-être pas très louables. Je me souviens d'un jeune gars qui est venu pour accompagner une jeune fille. Ce n'était pas la meilleure motivation pour venir entendre la parole de Dieu. Mais finalement, Dieu a fait son œuvre dans son cœur. Dieu accueille des pécheurs en transformation. L'Église, c'est un lieu où la grâce précède souvent la maturité. Elle reconnaît comme membres ceux qui se sont repentis et ont cru et ont témoigné par le baptême de leur foi en Christ. Mais l'Église, elle a cette faculté d'attraction et d'accueillir des gens avec des intentions louables à première vue. Mais finalement, Dieu les attire comme cela. Enfin, dans le chapitre 10, les versets 1 à 15 nous parlent d'un autre événement. On ne va pas faire la lecture tout entière. Mais quand Adoni-Tzedek, c'est le roi de Jérusalem, apprend que Josué s'est emparé de Jéricho et Haï, et que les habitants de Gabaon ont fait la paix avec Israël, il a très peur, nous dit le texte ici, parce que Gabaon était une grande ville et que tous ses hommes étaient vaillants, verset 2. Alors, il monte une coalition avec 4 autres rois des villes voisines et ils réunissent toutes leurs armées et ils campent près de Gabaon et ils s'apprêtent à attaquer Gabaon pour ces traîtres-là, ils veulent les détruire. Les gens de Gabaon voient venir leur perte. Ils appellent au secours Josué. Et Josué, il était rentré au camp de base à Gilgal, donc à environ 25 kilomètres de là. Et au verset 6, chapitre 10, il est dit, « Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours !» Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Je ne sais pas si vous voyez la scène ici. Faites pause. Les menteurs qui ont arraché une paix et un serment au nom de l'Éternel sont sur le point de disparaître. Ce qui aurait dû être leur sort. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que Josué va faire? Auriez-vous vu un signe du destin? J'ai imaginé la réponse qu'aurait pu faire Josué. Chers Gabaonites, chers Éviens, nous avons bien reçu votre message SOS. Nous avons pris immédiatement votre situation très à cœur. Aussi, moi, Josué, j'ai convoqué un conseil d'urgence pour traiter votre demande. Ce conseil se réunira jeudi. Les conseils, c'est toujours le jeudi. Dès vendredi, nous vous ferons connaître toutes les forces que nous pourrons envoyer vous secourir. Elles devraient vous parvenir courant de la semaine prochaine. Je ne vous cache pas, cependant, que votre sollicitation arrive dans une période extrêmement chargée pour nos soldats. Bon courage, que le Seigneur vous bénisse, à très vite, ou pas. C'est bon, non? Quand même, on est tout cœur avec eux, mais normalement, si tout va bien, D'ici jeudi, on n'entendra plus parler des Gabaonites. Et on sera libéré de notre alliance de paix. Israël aurait pu, effectivement, considérer que l'attaque des rois amoréens contre Gabaon résolvait un problème créé par la ruse des Gabaonites. Pourtant, verset 7, Josué part sur le champ avec tous les gens de guerre pour leur porter secours. Et il va marcher toute la nuit pour atteindre Gabaon. Et au petit matin, il attaque. Il y a peut-être des raisons stratégiques. L'alliance avec Gabaon avait déjà placé cette ville du côté d'Israël. Si Gabaon repassait aux mains des Cananéens, les cinq rois amoréens renforceraient leur position. En défendant Gabaon, Israël protégeait d'une certaine manière un allié important situé dans une région stratégique du pays, mais ce n'est pas du tout ce que le texte met en avant. Ce que montre l'auteur, par contre, c'est que Dieu honore l'attitude de Josué. La parole donnée au nom de Dieu était une obligation morale et spirituelle. Abandonner Gabaon aurait été une violation directe de ce serment. Dieu encourage Josué et lui dit qu'il sera avec lui, vous avez vu verset 8, « Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains. » Mais remarquez que Josué ne se met en route avant de recevoir la promesse de l'Éternel. La fidélité d'Israël reflète le caractère de Dieu. Et au verset 10, c'est l'Éternel qui mit la coalition de ses rois en déroute. Verset 11 nous dit, chapitre 10, verset 11, « Comme ils fuyaient tous ces ennemis devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. » Dieu combat pour Israël. D'une certaine manière, Dieu a utilisé tout cela pour accélérer la conquête de Canaan. Il a réuni cinq rois tous ensemble et il les a combattus en un instant. Regardez la suite. Verset 12, je lis. « Alors Josué parla à l'Éternel. » Ça, c'est le « talkie-walkie ». Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Et il ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Josué parla à l'Éternel. Il use du talkie-walkie, de la prière, pour faire reculer l'ennemi. Il demande une chose extraordinaire. Arrête le soleil dans sa course pour qu'on puisse finir le boulot aujourd'hui. Et Dieu exauce sa prière. Il a permis le prolongement de la journée, il y a des livres entiers qui sont écrits là-dessus, pour faire cesser le combat et donner la victoire à ces cinq rois. Les versets 16 à 27 du chapitre 10 donnent des détails sur cette victoire. Une chose que je voudrais relever encore une fois, c'est que même si c'est l'Éternel qui combat pour eux, je veux juste noter le zèle du peuple d'Israël et de Josué en particulier. Juste revenez. Ils ont eu leur journée de boulot. Le soir, ils reçoivent le message des Gabaonites « Viens nous secourir ». Ils font 25 kilomètres de nuit pour arriver à Gabaon avec toutes leurs armées. Ils combattent toute la journée. Et à un moment, ils voient qu'ils ne vont pas finir le boulot dans la journée. Ils demandent encore, fais-moi une double journée, une journée de 48 heures. Vous voyez un peu le zèle? J'aime ça. Dieu combat pour nous. Mais il s'attend à ce qu'on y mette tout notre zèle. Puisque la victoire est assurée, mettons tout notre zèle pour l'œuvre de Dieu. Êtes-vous conscient d'être en guerre? Êtes-vous conscient que nous avons un ennemi féroce et rusé qui cherche à ruiner notre communion avec Dieu, à nous garder prisonniers du péché, à détourner nos cœurs des choses les plus précieuses, les choses éternelles, et à porter toute notre attention sur les choses passagères, terrestres, vaines. Un ennemi qui nous garde centrés sur nous-mêmes, un ennemi qui nous garde autosuffisants et tristement inoffensifs pour ses lignes. Si nous sommes en guerre, nous allons nous saisir du talkie-walkie et demander au général de nous secourir, de nous conduire, de nous diriger, de nous fortifier, de pourvoir et de pilonner les lignes ennemies. Mais il est possible, et peut-être que vous êtes en train de... Vous avez une décision importante à prendre. Prenez le talkie-walkie. Considérez les choses, les faits, mais prenez le talkie-walkie. Pensez, cherchez Dieu de tout votre cœur. Et il est possible que vous avez déjà été piégé par l'ennemi, par ses ruses, que vous vous êtes embarqué dans une mauvaise voie, vous vous êtes laissé tromper, vous êtes laissé séduire ou berner. Mais à présent, vous savez, c'était une boulette. Vous êtes tenté de régler votre situation par vos propres méthodes. N'ajoutez pas un nouveau péché. Mais repentez-vous vraiment. Et vivez pardonné avec vos erreurs. Mais aussi avec le Dieu de grâce. Le Dieu qui nous secourt. Demandez-lui son secours, sa force, son conseil pour faire face à votre situation. Honorez-le de toute votre confiance. Il est fidèle. Nos mauvais choix ont des conséquences réelles. Cependant, la grâce de Dieu est plus grande que nos échecs. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, combien elle est source d'encouragement pour nos cœurs. Seigneur, on ne peut pas échapper, Seigneur, à l'erreur, Seigneur, de Josué et des anciens d'Israël. On sait que nos cœurs sont tortueux, qu'ils sont prompts à se tromper eux-mêmes. C'est pourquoi on vient ensemble devant toi te demander, Seigneur, de nous éclairer dans les choix que l'on a à faire. Donne-nous ta grâce, ton secours. Donne-nous l'intelligence dont on a besoin. Donne-nous de comprendre ta volonté. Permets que nos cœurs soient ancrés dans ta parole pour qu'on puisse discerner tes desseins, ta volonté pour nos propres vies. Et donne-nous un cœur obéissant pour nous y engager. Et Seigneur, si parmi nous il y a des gens qui se sont déjà engagés, qui se sont laissés piéger, Seigneur, permets-leur juste de te rester attaché, d'assumer avec grâce, avec ta grâce, leurs mauvais choix ou leurs erreurs, de se confier en toi, de se repentir véritablement, et de s'attendre à ce que toi, tu agisses en profondeur dans leur vie. Seigneur, merci pour cette belle victoire que tu donnes encore à Josué après une telle erreur. Tout cela parce que il a accepté de vivre avec ses erreurs et avec le Dieu de grâce. Et Seigneur, on veut te demander de nous apprendre les mêmes vérités pour nos vies jour après jour. Par Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen.